Ivan Turgenev, Apparition. Je ne pouvais dormir et m'agitais en vain dans mon lit, d'un côté et de l'autre. Le diable soit l'étape tournante, pensais-je, qui vous agace les nerfs. Pourtant, je commençais à m'assoupir, lorsque je crus entendre résonner près de moi une corde d'instrument. Elle rendait une note triste et tendre. Je soulevai la tête. En ce moment, la lune venait de dépasser l'horizon et ses rayons tombaient sur mon visage. Blanc comme la craie était le parquet de ma chambre à l'endroit éclairé par la lune. Le bruit se renouvela et cette fois plus distinct. Je m'appuyai sur le coude, le cœur me battait un peu. Une minute se passa, puis une autre. Quelque part au loin, un coq chanta. Plus loin encore, un autre coq lui répondit. Ma tête retomba sur l'oreiller. « Mais me voilà bien, me dis-je. Est-ce que les oreilles me tinteront toujours ? Enfin, je m'endormis où je crus m'endormir. J'avais des rêves étranges. Je m'étonnais de me trouver couché dans ma chambre, dans mon lit, sans pouvoir fermer les yeux. Encore le même bruit. Je me retourne. Le rayon de la lune sur le parquet commence doucement à se rassembler, à prendre une forme. Il s'élève, et debout devant moi, transparente comme un brouillard, se dresse une figure blanche de femme. « Qui est là ?» demandai-je en faisant un effort. Une voix faible comme le bruissement du feuillage répond. « C'est moi, moi. Je viens te voir. » « Me voir, mais qui es-tu ? Viens la nuit au coin du bois, sous le vieux chêne, j'y serai. » Je veux regarder les traits de cette mystérieuse figure et je frissonne involontairement. Je me sens comme transi de froid. Je suis non plus couché, mais assis sur mon lit, et à la place où j'ai cru voir un fantôme, il n'y a plus qu'un blanc rayon de la lune s'allongeant sur le parquet. Le jour tarda bien à se faire. Je voulus lire, travailler. Rien n'allait. Enfin la nuit vint. Mon cœur battait dans l'attente de quelque événement. Je me couchais, le visage tourné vers la muraille. « Mais pourquoi n'es-tu pas venu ?» murmura une petite voix faible mais distincte, tout près de moi dans ma chambre. « C'est elle, le même fantôme mystérieux, avec ses yeux immobiles, son visage immobile, regard plein de tristesse. « Viens !» murmura-t-elle de nouveau. « J'irai, » répondis-je, non sans effroi. Le fantôme parut faire un mouvement vers mon lit. Il chancela. Sa forme devint confuse et troublée comme une vapeur. Au bout d'un instant, il n'y avait plus que le blanc reflet de la lune sur le parquet poli. Je passai toute la journée suivante dans une grande agitation. À souper, je bus presque toute une bouteille de vin. Un instant, je sortis sur le perron, mais je rentrai presque aussitôt et me jetai sur mon lit, et mon pouls battait avec force. Encore une fois, ce frémissement de corde se fit entendre. Je frissonnais, je n'osais regarder. Tout à coup, il me sembla que quelqu'un, posant ses mains sur mes épaules par derrière, murmurait à mon oreille « Viens, viens, viens !» Tremblant, je répondis avec un grand soupir « Me voici !» et je me soulevai sur mon lit. La femme blanche était là, penchée sur mon chevet. Elle me sourit doucement, mais disparut aussitôt. Pourtant, j'avais pu jeter un regard sur son visage. Il me sembla que je l'avais vu quelque part, mais où et quand ? Je me levai fort tard et toute la journée je ne fis que me promener dans les champs. Je m'approchai du vieux chêne à la lisière du bois et j'examinai avec soin tous les alentours. Vers le soir, je m'assis à la fenêtre dans mon cabinet. Ma vieille femme de charge m'apporta une tasse de thé, mais je n'y touchais pas. Je ne pouvais prendre une résolution, et je me demandais à moi-même si je ne devenais pas fou. Cependant, le soleil allait disparaître. Au ciel, pas un nuage. Soudain, le paysage prit une teinte de pourpre presque surnaturelle. Vernissé de cette teinte laqueuse, le feuillage, l'herbe, n'avait plus d'ondulation et semblait pétrifié. Cet éclat et cette immobilité, et la netteté lumineuse de tous les contours et ce morne silence, offraient un contraste étrange et inexplicable. Sans s'annoncer par le moindre bruit, un assez gros oiseau brun s'abattit tout à coup sur le bord de ma fenêtre. Je le regardais. Lui aussi me regarda de côté de son œil rond et profond. « On t'envoie sans doute, pensais-je, pour que je n'oublie pas le rendez-vous. » Aussitôt, l'oiseau agita ses ailes doublées de duvet et s'envola sans plus de bruit qu'il n'était venu. Longtemps encore, je demeurai assis à ma fenêtre, mais déjà toute irrésolution avait cessé. Je me sentais pris dans un cercle magique. Inutile de résister, entraîné que j'étais par une force secrète, c'est ainsi qu'une barque est inévitablement emportée par des rapides à la cataracte qui doit l'abîmer. Je me secouai enfin. La couleur tempourprée du paysage avait disparu. Ses teintes brillantes s'étaient assombries et allaient bientôt s'éteindre dans l'obscurité. Cette immobilité magique avait aussi cessé. Un vent léger se levait et la lune montait brillante dans le ciel bleu. Sous ses froids rayons, les feuilles des arbres tremblotaient, tantôt noires, tantôt argentées. Ma femme de chambre entrait avec une bougie allumée, mais une bouffée de vent arriva de la fenêtre et l'éteignit. Je me levai brusquement, j'enfonçai mon chapeau sur mes yeux et me dirigeai à grands pas vers le coin du bois où était le vieux chêne. Il y avait bien des années que ce chêne avait été frappé de la foudre. Sa cime brisée était morte, mais le reste de l'arbre avait encore de la vie pour plusieurs siècles. Comme je m'approchais, un petit nuage passait devant la lune et il faisait très sombre sous l'épais feuillage du chêne. D'abord, je ne remarquais rien d'extraordinaire, mais en portant mes regards de côté, les battements de mon cœur s'arrêtèrent tout à coup. J'aperçus une figure blanche, immobile auprès d'un buisson, entre le chêne et le bois. Mes cheveux se dressaient sur ma tête. J'avais peine à respirer. Pourtant, je m'avançais vers le bois. C'était bien elle, la dame aux visites nocturnes. Au moment où je m'approchais d'elle, la lune sortit du nuage qui l'obscurcissait. Le fantôme me parut formé d'un brouillard laiteux, à demi transparent. À travers son visage, je distinguais derrière sa tête une ronce balancée par le vent. Seulement, ses yeux et ses cheveux étaient d'une teinte plus claire, plus sombre. J'observai encore qu'à l'un de ses doigts, tandis qu'elle tenait ses mains entrecroisées, elle avait un petit anneau d'or, pâle et brillant. Je m'arrêtai à deux pas d'elle et voulus lui adresser la parole, mais ma voix expira dans ma gorge. Et pourtant, ce n'était pas précisément une sensation de terreur que j'éprouvais. Elle tourna ses yeux vers moi. Son regard n'exprimait ni la tristesse, ni la gaieté, rien qu'une attention même. J'attendais qu'elle parlât, mais elle demeurait muette, immobile, attachant sur moi un regard fixe et mort. « Me voici !» m'écriai-je enfin d'un effort suprême. Ma voix retentit avec un son sourd et rauque. « Je t'aime !» répondit-elle de sa petite voix. « Tu m'aimes ? » m'écriai-je stupéfait. « Donne-toi à moi, » murmura-t-elle. « Me donner à toi, mais tu es un fantôme, tu n'as pas de corps. » Toutes mes idées étaient bouleversées. « Qui es-tu, une vapeur, un brouillard, une forme aérienne? Que je me donne à toi, mais d'abord apprends-moi qui tu es. As-tu vécu sur la terre? D'où viens-tu? Donne-toi à moi, je ne te ferai pas de mal. Dis seulement ces deux mots, prends-moi. Je la regardais ébahie. Mais que me dit-elle, que signifie tout cela, pensais-je? Tenterai-je l'aventure? Eh bien, m'écriai-je tout d'un coup, et avec une force inattendue, comme si quelqu'un m'eût poussé par derrière, prends-moi! À peine avais-je prononcé ces mots, que la mystérieuse figure, avec un rire intérieur qui fit trembler un instant tous ses traits, s'avança vers moi. Ses mains se désunirent et s'allongèrent. Je voulus sauter en arrière, mais j'étais déjà en son pouvoir. Elle me tenait dans ses bras. Mon corps était soulevé de terre d'une demi-marchine, et tous deux, nous volions modérément vite au-dessus de l'herbe immobile. Tout d'abord, la tête me tourna et involontairement je fermai les yeux. Quand je les rouvris un moment après, nous volions toujours et déjà je ne voyais plus mon bois. Au-dessous de nous s'étendait une vaste plaine couverte de taches sombres. Je m'aperçus avec stupéfaction que nous étions à une hauteur prodigieuse. Mais je suis au pouvoir du démon. Cette pensée me frappa comme un coup de foudre. Jusqu'alors, l'idée du pouvoir diabolique, de ma perdition possible, ne s'était pas présentée à mon esprit. Et cependant, nous volions toujours, et il me semblait que nous nous étions élevés de plus en plus. « Mais où m'emportes-tu ? » m'écriai-je enfin. « Où tu voudras ? » répondit ma compagne, en me serrant plus étroitement dans ses bras. Son visage touchait le mien, et pourtant c'est à peine si j'en sentais le contact. « Oh, remets-moi à terre, je me trouve mal à mon aise à cette hauteur. »« Bien, mais ferme les yeux et ne respire pas. » J'obéis, et aussitôt, il me sembla que je tombais comme une pierre. Le vent fouettait mes cheveux. Lorsque je pus retrouver mon sang-froid, je vis que nous volions lentement au-dessus de terre, rasant les tiges des hautes herbes. « Dépose-moi ici, lui dis-je. Quelle idée de voler! Je suis pas un oiseau !»« Je croyais te faire plaisir. Pour nous, nous ne faisons pas autre chose. »« Vous, mais qui êtes-vous ?» Point de réponse. « Tu oses me le dire ?» Un son plaintif, semblable à cette note mélancolique qui m'avait éveillé la première nuit, résonna à mon oreille et toujours nous volions près de terre dans l'atmosphère humide. « Dépose-moi donc à terre !» lui dis-je. Elle baissa la tête en signe d'obéissance et je me trouvai sur mes pieds. Elle demeura debout devant moi et de nouveau ses mains se joignirent dans l'attitude de l'attente. Je commençai à me rassurer et je me mis à la considérer avec attention. Comme la première fois, son expression me parut celle d'une résignation triste. « Mais où sommes-nous ? » lui demandai-je, car je ne reconnaissais pas le lieu où nous nous étions arrêtés. « Au loin de ta maison, mais nous pouvons y être dans un moment. »« Comment cela ? Me fierai-je encore à toi ? » ?»« Je ne t'ai pas fait de mal et je ne t'en ferai pas. Nous volerons ensemble jusqu'à l'aube, voilà tout. » Partout ira ta pensée, je puis te porter dans tous les pays de la terre. Donne-toi à moi. Dis encore, prends-moi. Bon, eh bien, prends-moi. Ses bras m'enlacèrent de nouveau. Je perdis terre et nous recommençâmes à voler. Où veux-tu aller ? Me demanda-t-elle. Oh, tout droit devant nous. Mais voici une forêt. Ben, passons au-dessus, mais pas si vite. Aussitôt, nous nous élevâmes en tournoyant comme la bécasse qui gagne la cime d'un bouleau, puis nous reprîmes la ligne droite. Ce n'étaient plus les herbes, c'étaient les sommets des grands arbres qui semblaient glisser sous nos pieds. Étrange spectacle, cette forêt vue d'en haut, avec ses sommités hérissées qu'éclairait la lune. On eût dit un énorme animal étendu, endormi et ronflant avec un grondement sourd et indistinct. Par moments, nous passions au-dessus d'une clairière, et je voyais la ligne d'ombre désolée que projetaient les arbres. De temps en temps, un lièvre faisait entendre son cri plaintif dans le fourré. Plaintif aussi était le cri de la chouette qui passait à nos côtés. L'air nous apportait les senteurs de la livèche, des champignons, des bourgeons se gonflant sous la rosée. La lumière de la lune se répandait autour de nous, froide et sévère, et la grande ours scintillait gravement au-dessus de nos têtes. Bientôt, la forêt disparut derrière nous. Nous vîmes une plaine où se dessinait une longue ligne de vapeur grise. Elle marquait le cours d'une rivière. Nous suivîmes une de ses rives au-dessus de buissons affaissés sous la lourde humidité de la nuit. L'eau tantôt reluisait d'un éclat bleuâtre, tantôt tourbillonnait, sombre et menaçante. Par places, quelques flocons de vapeur tremblotaient au-dessus du courant. Je voyais çà et là des lys d'eau étaler leurs blancs pétales, montrant leurs trésors de beauté comme des vierges qui se croient à l'abri de tout regard. Je voulus cueillir une fleur, et déjà je touchais presque le miroir de l'eau, mais une fraîcheur désagréable me jaillit au visage au moment où j'arrachais la rude tige d'un lys. Nous nous mîmes à voler d'une rive à l'autre à la manière des courlis, et de fait nous en faisions lever à chaque instant. Plus d'une fois nous passâmes au-dessus de jolis nichets de canards sauvages, rassemblés en un petit groupe au milieu des roseaux. Ils ne s'envolaient pas. Un d'eux retirait précipitamment sa tête de dessous son aile, regardait, puis d'un air affairé, remettait son bec sous le duvet soyeux, tandis que ses compagnons laissaient échapper un faible coin-coin. Nous réveillâmes un héros dans un buisson de cytis. En le voyant sauter à pied et secouer gauchement ses ailes, je crus voir un Allemand. Quant aux poissons, nous n'en perçûmes pas un seul. Tous dormaient au fond. Je commençais à m'habituer à la sensation de voler et même à y trouver du plaisir. Quiconque a rêvé qu'il volait me comprendra. Complètement rassuré, je m'appliquais à bien observer l'être étrange à qui je devais de jouer un rôle dans cette incroyable aventure. C'était une jeune femme dont les traits n'avaient rien du type russe. Sa forme d'un blanc grisâtre à demi transparente, des ombres à peine indiquées rappelaient ses figures sculptées sur un vase d'albâtre qu'une lampe éclaire à l'intérieur. Il me sembla de nouveau que ses traits ne m'étaient pas inconnus. « Puis-je te parler ?» lui demandai-je. « Parle ? » ?»« Je te vois un anneau au doigt. As-tu vécu sur la terre ? As-tu été marié ?» Je m'arrêtai, ne répondais pas. « Comment t'appelles-tu ? Ou comment t'appelait-on ? » « Appelle-moi Ellis. »« Ellis, mais c'est un nom anglais. » « Es-tu anglaise ? M'as-tu connue autrefois ? Non. Mais pourquoi est-ce à moi que tu es venue apparaître ? Je t'aime. Es-tu heureuse ? Oui, planer, voler avec toi dans l'air pur. »« Ellis, m'écriai-je tout à coup, n'es-tu pas une réprouvée ? N'es-tu pas une âme en peine ? « Je ne te comprends pas, » murmura-t-elle, baissant la tête. « Au nom de Dieu, je t'adjure, » commençai-je, elle m'interrompit. « Mais que me dis-tu là ? » reprit-elle, comme si elle ne me comprenait pas en effet. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Je crus sentir un faible mouvement dans le bras qui m'entourait comme une ceinture froide. « N'aie pas peur, » reprit-elle, « ne crains rien, mon ami. » Son visage se pencha sur le mien. Sur mes lèvres, je sentis une sensation étrange, quelque chose comme la piqûre d'un aiguillon émoussé, comme l'attouchement d'une sangsue qui ne mord pas encore. Nous planions à une hauteur considérable. Je regardais en bas. Nous passions au-dessus d'une ville à moi inconnue, bâtie sur le penchant d'une large colline. Des églises s'élevaient au-dessus d'une masse de toits en planches et de sombres vergers. Un grand pont se détachait en noir sur la rivière dans un de ses tournants. Des coupoles dorées, des croix de métal brillaient d'un éclat amorti. Silencieux se dessinaient sur le ciel les lignes perches des puits parmi des bouquets de saules. Silencieuse également, une chaussée blanchâtre s'enfonçait en flèche étroite dans un bout de la ville et ressortait, toujours silencieuse, à l'autre bout, pour aller se perdre dans l'obscurité monotone de plaines sans fin. « Mais quelle est cette ville ?» demandai-je à Ellis. « N ?»« Ah oui, dans le gouvernement de... »« Oui. » »« Mais nous sommes bien loin de chez moi. »« Oh, pour nous, point de distance. » »« En vérité, une audace soudaine s'empara de moi. »« Mais porte-moi dans l'Amérique du Sud. » « Impossible, il y fait jour. »« Ah, nous sommes des oiseaux de nuit. »« Eh bien alors, n'importe où, mais bien loin. »« Ferme les yeux et ne respire pas, » répondit Ellis. Et nous partîmes avec la rapidité de l'ouragan. L'air s'engouffra dans mes oreilles avec un bruit déchirant. Nous nous arrêtâmes bientôt, mais le bruit ne cessait pas, au contraire, il redoublait. C'était comme un hurlement terrible, un immense fracas. « À présent, ouvre les yeux, » me dit Ellis. J'obéis. « Bon Dieu, où suis-je ? » Sur nos têtes, des nuages bas, lourds, épais, et se pressant, se poussant comme une meute de monstres en fureur. Au-dessous de nous, un autre monstre, une mer enragée, oui, enragée. Lancée par convulsion, une écume blanche s'élève en montagne bouillonnante, des vagues déchirées mettent avec un fracas brutal des rochers plus noirs que la poix. Le mugissement de la tempête, le souffle glacé sortant du fond des abîmes, le retentissement de l'alarme heurtant les falaises, où l'on croit entendre tantôt des plaintes lamentables, tantôt une décharge d'artillerie dans le lointain, ou bien encore le tintement des cloches, puis le grincement des galets roulant sur le rivage, parfois le cri d'une mouette invisible, sur une échappée du ciel, la silhouette incertaine d'un vaisseau, partout la mort et l'épouvante. De nouveau, je fermais les yeux, saisi d'horreur. Mais qu'est-ce là? Où sommes-nous? Sur la côte sud de l'île de Wight, devant les rochers de Black Gang, où bien souvent se perdent les vaisseaux, répondit Ellis, avec une maligne expression de joie, à ce qu'il me sembla. Oh, mais emporte-moi loin d'ici, chez moi. Je me pelotonnai en me couvrant les yeux. Il me sembla que nous volions avec plus de rapidité encore que tout à l'heure. Le vent ne sifflait plus. Il hurlait, il gémissait dans mes habits, dans mes cheveux. Je ne pouvais respirer. « Tiens-toi debout, » me dit Ellis. Je fis un effort pour reprendre mes esprits. Je sentais la terre sous mes semelles et je n'entendais aucun bruit. Tout autour de moi paraissait mort, mais le sang battait à mes tempes avec violence et la tête me tournait avec un faible tintement intérieur. Peu à peu, l'étourdissement se dissipa. Je me redressai et j'ouvris les yeux. Nous étions sur la chaussée de mon étang. Droit devant nous, à travers des feuilles pointues d'une rangée de saules, on voyait une grande nappe d'eau, au-dessus de laquelle dormaient, comme accrochés à la surface, quelques minces filaments de brouillard. À droite, la verdure terne d'un champ de seigle. À gauche, sortant de la brume, mon verger avec ses grands arbres immobiles et humides. Déjà le matin les avait touchés de son souffle. Sur le ciel pâle s'étendaient en raies obliques deux ou trois petits nuages jaunâtres, atteints qu'ils étaient par le premier rayon de l'aurore, partant Dieu sait de quel point de l'horizon, car dans la pâleur uniforme du ciel, rien n'annonçait de quel côté le soleil allait se montrer. Les étoiles avaient disparu. Rien ne bougeait encore, et pourtant tout se réveillait dans le calme magique du premier crépuscule. « Voici le jour, » me dit Alice à l'oreille. « Adieu, à demain. » Je me tournai vers elle. Déjà, elle avait quitté la terre et s'élevait en l'air devant moi. Tout à coup, je la vis porter ses deux mains au-dessus de sa tête. Cette tête, ses mains, ses épaules, avaient revêtu soudain une teinte de chair. Dans ses yeux sombres frémirent deux vivantes étincelles. Un sourire d'une mystérieuse mollesse toucha ses lèvres rougissantes. Une charmante jeune femme m'apparut. Cela dura qu'un instant. Comme saisie d'un éblouissement, elle se rejeta en arrière et fondit aussitôt ainsi qu'une vapeur. Quelque temps, je demeurai stupéfait, immobile. Quand je fus en état d'observer, il me sembla que cette teinte de chair, cette teinte d'un rose pâle qui avait subitement animé l'apparition, ne s'était pas dissipée et que l'air qui m'entourait en était imprégné. C'était l'aurore qui s'allumait. Je me sentis tout à coup une lassitude accablante et je me dirigeai vers la maison. En passant devant le poulailler, j'entendis les oiseaux qui caquetaient. Ce sont les premiers oiseaux à se réveiller. Le long du toit, à l'extrémité des perches qui retiennent le chaume, il y avait des corneilles en sentinelle. Toutes, fort empressées de faire leur toilette matinale, se profilaient lentement sur un ciel laiteux. Par moments, toutes se levaient à la fois et s'envolaient pour aller à quelques pas, se ranger en ligne, sans faire un cri. Dans le bois voisin, par deux fois retentit le gloussement enroué et frais du coq de bruyère, déjà en quête de baies sauvages dans la verdure humide. Pour moi, me sentant gagné par un léger frisson, j'allais me jeter sur mon lit où me coula bientôt un lourd sommeil. La nuit suivante, lorsque je m'approchais du vieux chêne, Élise vint à ma rencontre comme une vieille connaissance. De mon côté, toute crainte avait disparu et je la retrouvais presque avec plaisir. J'avais cessé de faire des efforts pour comprendre mon aventure, et je ne pensais plus qu'à voler encore et à satisfaire ma curiosité. Bientôt, le bras d'Élise m'enlaça et nous prîmes notre essor. « Allons en Italie ?» lui dis-je à l'oreille. « Où tu voudras, ami ?» répondit-elle avec une gravité lente. Et lentement et gravement, elle pencha sa tête vers moi. Je crus remarquer que son visage était moins transparent que la veille, ses traits plus féminins, moins vaporeux. Elle me rappelait cette belle créature qui s'était montrée à moi le matin un moment avant de disparaître. « Cette nuit, » continua Élise, « c'est la grande nuit. Elle vient rarement. Quand 7 x 13... » Ici, je perdis quelques mots. Alors, poursuivit-elle, on ne peut voir ce qui est caché en d'autres temps. « Mais Élise, lui dis-je d'un ton suppliant, qui es-tu ? Dis-le-moi à la fin !» Sans répondre, elle étendit sa longue et blanche main. De son doigt, sur le ciel sombre, elle indiquait un point où, parmi de petites étoiles, brillait une comète d'aspect rougeâtre. « Comment te comprendre ? Vis-tu comme cette comète errante entre les planètes et le soleil ? Vis-tu errante entre les hommes ? En quoi ? Eh bien ! » Mais la main d'Élise se porta tout à coup sur mes yeux. Un brouillard blanc et lourd comme celui qui vient de fond des vallées m'enveloppa soudain. « en Italie !» murmurait-elle. « Cette nuit, c'est la grande nuit !» Le brouillard se dissipa et je vis au-dessous de nous une plaine sans fin. Mais déjà la sensation d'un air mou et tiède sur mes joues m'avait averti que je n'étais plus en Russie. Et d'ailleurs, cette plainte ne ressemblait pas aux autres. C'était une immense surface terne, sans herbe, déserte. Ça et là, sur toute étendue, semblable au morceau d'un miroir cassé, brillaient des flaques d'eau stagnante. Plus loin, on distinguait vaguement une mer immobile et sans bruit. De grandes et belles étoiles scintillaient dans les intervalles de grands et beaux nuages. Et de toutes parts, s'élevait un tri fredonné par mille voix, incessant mais contenu. Ces tons pénétrants et sourds à la fois étaient la voix du désert. « Les marais pontins, » dit Alice, « entends-tu les grenouilles? Sens-tu le soufre ?»« Les marais pontins !» Et une impression de tristesse solennelle m'envahit. « Pourquoi me mener dans ce pays morne et abandonné? Nous ferions mieux d'aller à Rome. »«
Rome est proche, » dit-elle, « prépare-toi. »
Nous prîmes notre vol au-dessus de l'antique voie latine. Plongé dans un bourbier visqueux, un buffle leva lentement sa tête, difforme dont les soies courtes et rudes s'élevaient en touffe entre ses cornes tordues en arrière. Il montrait le blanc de ses yeux, stupides et méchants, en soufflant avec force de ses humides naseaux. Sans doute il nous avait sentis.
« Rome, voici Rome, » dit Ellis. « Regarde devant toi. »«
Quelle est cette masse noire au-dessus de l'horizon ? Sont-ce les arches d'un pont de géant ? Quel fleuve traverse-t-il ? Mais pourquoi est-il démoli par places ? Non, ce n'est pas un point. C'est un aqueduc antique. Ah, voici bien la sainte campagne romaine. Là-bas, les monts Albins. Leur sommet, la fabrique grisâtre de l'aqueduc, s'éclaire faiblement au rayon de la lune qui se lève. Nous nous élançâmes subitement et nous nous trouvâmes suspendus devant une ruine isolée. Personne n'eût su dire ce qu'elle avait été, un tombeau, un palais, des thermes. Un lierre noir l'enveloppait de sa triste étreinte, et dans le bas, telle qu'une gueule béante, s'ouvrait la voûte à demi effondrée d'un souterrain. Je fus frappé d'une odeur de sépulcre sortant de toutes ces petites pierres si bien appareillées, dont le revêtement de marbre avait depuis longtemps disparu. « Ici !» continua Ellis en étendant la main. « Ici !» Prononce à haute voix, trois fois de suite, le nom d'un grand Romain. « Qu'arrivera-t-il ? » ?»«
Tu verras. »
Je réfléchis un instant. « Divus Caius Julius Caesar !» m'écriai-je. « Divus Caius Julius Caesar !» répétai-je en prononçant le nom. « César !» Les derniers éclats de ma voix retentissaient encore quand j'entendis « Oh, mais je désespère de décrire ce que j'éprouvais !» D'abord, ce fut un bruit confus, à peine perceptible pour l'oreille, et sans cesse répété, de trompettes et de battements de mains. Il me semblait que quelque part, dans un éloignement prodigieux ou dans un abîme sans fond, s'agitait une foule innombrable. Elle s'élevait, elle montait en flots pressés, toujours poussant des cris, mais de ces cris étouffés, tels qui s'échappent de la poitrine dans ces rêves accablants qu'on croit durer des siècles. Puis l'air se troubla et s'assombrit au-dessus de la ruine. Alors, il me sembla voir surgir et défiler des ombres, des myriades d'ombres, des millions de formes, les unes s'arrondissant en casques, les autres se projetant comme des pics. Les rayons de la lune se divisaient en d'innombrables étincelles bleues sur ces pics et ces casques, et toute cette armée, toute cette multitude se pressait, se poussait, avançait, grandissait. On la sentait animée d'une indicible énergie capable de soulever le monde. Pas une forme, cependant, n'était distincte. Soudain, un mouvement étrange agite toute cette foule. On dirait des flots immenses qui s'écartent, qui se retirent. « Caesar, Caesar, venit !» répètent mille voix confuses, semblables au frémissement des feuilles dans une forêt où s'abat l'ouragan. Un coup sourd retentit, et une tête pâle, sévère, les paupières fermées, ceinte d'une couronne de laurier, la tête de l'impérator sortit lentement de la ruine. Non, il n'y a pas de mots dans une langue humaine pour exprimer l'épouvante qui s'empara de moi. Je me dis que si cette tête s'ouvrait les yeux, si ses lèvres se desserraient, j'allais mourir à l'instant. « Élise, m'écriai-je, je ne veux pas, je ne puis pas. Ôte-moi de Rome, de cette brutale et terrible Rome, partons. »« Cœur faible, murmura-t-elle, et nous reprîmes notre essor. » Derrière moi, j'entendis le cri, retentissant cette fois le cri de fer des légions romaines, puis tout devint sombre. « Regarde, me dit Élise, et calme-toi. » Je me souviens que ma première sensation fut si douce que d'abord je ne pus que soupirer. Je ne sais quoi d'un azur vaporeux, de mollement argentin, ni lumière ni brouillard m'enveloppait. D'abord je ne distinguais rien. Cette lueur bleue m'aveuglait. Mais peu à peu se dessinèrent à mes yeux les nobles profils de belles montagnes boisées. Un lac s'étendait sous moi, avec des étoiles tremblotantes dans la profondeur de ses eaux. J'entendais le long murmure des vagues clapotant sur le rivage. Le parfum des orangers m'arriva, pur et fort comme un flot. Et avec lui, aussi pur, aussi puissant, arrivèrent les sons d'une jeune voix de femme. Attiré, fasciné par ces parfums et cette voix, je voulus descendre. Nous nous dirigeâmes vers un magnifique palais de marbre adossé à un massif de cyprès. Les sons partaient des fenêtres tout ouvertes. Le lac, semé de pollen de fleurs, battait de ses douces ondulations les murs du palais, et droit en face, une île revêtue de la sombre verdure des orangers et des lauriers, enveloppée d'une vapeur lumineuse, couverte de portiques, de colonnades, de temples, de statues, se dressait du sein des eaux hautes et arrondies. « L'Isola Bella, le lac majeur, » dit Élise. Je leur répondis que « Ah !» et nous continuâmes à descendre. La voix se levait toujours plus éclatante et m'attirait irrésistiblement. Je voulus voir la figure de celle qui laissait entendre de tels accents par une telle nuit. Nous étions près de la fenêtre, au milieu d'un salon meublé dans le style de Pompéi et plus semblable à un musée d'antiquité qu'à un appartement moderne, entouré de sculptures grecques, de vases étrusques, de plantes rares, de tissus précieux, éclairé d'en haut par deux lampes enfermées dans des globes de cristal, une jeune femme était assise devant un piano. La tête légèrement renversée en arrière, les yeux à demi clos, elle chantait un air italien. Elle chantait et souriait. Elle souriait et un faune de Praxitèle, jeune et nonchalant comme elle amolie et voluptueux, souriait aussi, comme il me semblait, de sa niche de marbre, entourée de lauriers roses, à travers la légère vapeur qui s'échappait d'une cassolette antique posée sur un trépied de bronze. La jeune femme était seule, enchantée de ces sons, de cette beauté, enivrée de l'éclat et des parfums de la nuit, émue jusqu'au fond de l'âme par ce spectacle de jeunesse, de fraîcheur et de bonheur. J'oubliais par quelle mystérieuse aventure je pénétrais les secrets d'une existence si éloignée et si étrangère. Je voulais monter sur la fenêtre et parler. Tout mon corps trembla d'une commotion violente, comme si j'avais touché une bouteille de LED. En dépit de sa transparence, le visage d'Élise était devenu sombre et menaçant. Dans ses yeux, démesurément ouverts, brûlait une expression de profonde malignité. « Partons, partons !» dit-elle brusquement. Et de nouveau le vent, le bruit, l'étourdissement. Au lieu du cri des légions, ce fut la dernière note aiguë de la chanteuse qui longtemps vibra dans mes oreilles. Nous nous arrêtâmes, mais cette note aiguë, cette même note, résonnait toujours bien que je sentisse un autre air et d'autres émanations. Une fraîcheur fortifiante m'arrivait comme d'une grande rivière, avec des senteurs de foin, de chanvre, de fumée. À cette note longtemps soutenue, succéda une autre note, puis une troisième, mais d'un caractère si prononcé, avec des modulations de moi si connues, que je me dis à l'instant, « Mais voilà un chant russe, un air russe !» Et en même temps, tous les objets autour de moi m'apparurent distinctement. Nous étions sur la rive d'un grand fleuve. À gauche s'étendaient à perte de vue des prairies fauchées avec des meules énormes. À droite, également à perte de vue, on distinguait la surface de l'eau. Près du rivage, de longues barques se balançaient doucement sur leurs ancres, agitant leurs mâts élancés comme des doigts, comme des index faisant un signe. Dans une de ces barques, d'où partaient les chants, brillait un petit feu dont la lueur se reflétait en longues raies rouges et tremblotantes sur les flots de la rivière. Partout, et sur le fleuve et dans la campagne, scintillaient d'autres feux. Était-il loin de nous, rapproché? La vue ne pouvait s'en rendre compte. Tantôt, ils s'éloignaient brusquement, tantôt on les voyait jaillir en jetant un vif éclat. D'innombrables grillons chantaient incessamment dans l'herbe, non moins acharnés que les grenouilles des marais pontins. Le ciel était sans nuages, mais bas et sombre, et de temps en temps, des oiseaux qui planaient invisibles poussaient des cris plaintifs. « Mais ne sommes-nous pas en Russie ?» demandai-je à mon guide. « Voici la Volga, » répondit-elle. Nous volions le long du fleuve. « Mais pourquoi m'as-tu arraché tout à l'heure à de délicieux pays ?» lui demandai-je. « Il te déplaisait sans doute. N'aurais-tu pas éprouvé un mouvement de jalousie ?» Les lèvres d'Elis tremblèrent. Son regard devint menaçant, mais presque aussitôt ses traits reprirent leur immobilité ordinaire. « Je voudrais retourner chez moi, » lui dis-je. « Attends, attends, » répondit-elle, « cette nuit, c'est la grande nuit. Elle ne reviendra pas de sitôt. Tu peux insister, attends un peu. » Aussitôt, nous traversâmes la Volga, rasant l'eau obliquement et par allant successifs à la manière des hirondelles fuyant devant la tempête. Les flots profonds murmuraient au-dessous de nous. Un vent aigre nous battait de son aile froide et puissante. Bientôt, la rive droite du fleuve se montra dans la demi-obscurité et nous aperçûmes des falaises escarpées avec de grandes crevasses. Nous nous en approchâmes. « Crie, Sarina Kishlou !» me dit-elle tout bas et lisse. J'étais encore mal remis de l'effroi que m'avait causé l'apparition des fantômes romains, fatigué d'ailleurs et en proie à je ne sais quel vague sentiment de tristesse. Bref, le cœur me manquait. Je ne voulais pas prononcer ces paroles fatales, persuadé qu'elles allaient, comme dans la vallée aux loups du Freischutz, faire apparaître quelque prodige effrayant. Mais, malgré moi, mes lèvres s'ouvrirent et d'une voix faible et forcée, je criai « Sarina Kitschkou !» De même que devant la ruine romaine, tout d'abord me vint silencieux. Et tout à coup, à mon oreille même, retentit un gros rire brutal, suivi d'un gémissement et du bruit d'un corps tombant dans l'eau et se débattant. Je regardai autour de moi, personne. Mais au bout d'un moment, l'écho du rivage me renvoya les mêmes sons, et bientôt de toutes parts s'éleva un vacarme épouvantable. C'était un vrai chaos de bruit, des cris humains, des coups de sifflet, des vociférations furieuses, avec des rires, mais des rires plus effrayants que tout le reste. Le clapotement de rhum sur le haut, des coups de hache, le fracas de portes et de coffres brisés, la plainte d'agrès qu'on manœuvre, le grincement de roues sur la grève, le piétinement d'une multitude de chevaux, le glas du tocsin, le cliquetis des chaînes, le crépitement lugubre de vastes incendies, des chansons d'ivrognes, des grincements de dents et des jurons atroces, des lamentations, des prières désespérées, des commandements militaires, des râlements de mort mêlés au son joyeux du fifre et à la cadence de rondes forcenées. On distinguait ces cris « Tue-le, pends-le, allô, brûle, à l'ouvrage, pas de quartier !» J'entendais jusqu'au souffle haletant qui sortait de poitrines épuisées. Et cependant, partout où ma vue pouvait s'étendre, rien ne paraissait. Nul changement dans l'aspect du pays. Devant nous, la rivière coulait, silencieuse et sombre. Le rivage semblait plus inculte et plus désert encore. Je me tournai vers Élise. Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Stepan Tivolitch, voici Stepan Tifoïtch !» Un cri s'éleva sur toute la plaine. « Vive notre petit père, notre ataman, notre père nourricier !» Soudain, quoique je continuasse à ne rien voir, il me sembla sentir un corps gigantesque s'avancer vers moi, et une voix épouvantable se mit à crier « Frolka, où es-tu, chien ? Du feu partout, allons ! Un coup de hache à ses mains blanches, comme en face de la chair à pâté !» Je sentis la chaleur d'une flamme tout près de moi, l'odeur âcre de la fumée pénétra dans mes narines, et en même temps quelque chose de chaud et de liquide, comme des gouttes de sang jaillit sur mon visage et mes mains. Des rires sauvages éclatèrent autour de nous. Je perdis connaissance, et quand je revins à moi, je me retrouvai avec Élise, planant doucement la lisière de mon bois, à un peu de distance du vieux chêne. « Vois-tu ce joli petit sentier ?» me dit-elle, « là-bas où tombe la lune, où se balancent ces deux bouleaux. Veux-tu que nous allions là ?» J'étais si accablé, si brisé, que je ne pus que lui répondre, « Oh, la maison !»« Mais tu es à la maison, » dit-elle, Élise. En effet, j'étais à ma porte, seul. Élise avait disparu. Le chien de garde s'approcha, me considéra avec défiance et s'enfuit en hurlant. Je gagnai mon lit, non sans effort, et je m'endormis sans m'être déshabillé.